utile de l'accessibilité à la vie culturelle rennaise, un reportage présenté par Canal B. Bonjour, c'est Emma, vous êtes sur Canal B et bienvenue dans le troisième et dernier épisode de notre série de reportages consacrés à l'accessibilité à la vie culturelle rennaise. Après avoir abordé dans les premiers et seconds épisodes le rôle de la ville dans l'accessibilité à la vie culturelle, ainsi que les dispositifs mis en place, nous allons voir aujourd'hui que la problématique de l'accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap, dans ce troisième épisode intitulé « Combattre l'exclusion ». Vous allez ainsi réentendre les voix de Julie Hague, du TNB, de Margot Dory, de l'association Clair-Obscur, de Benoît Careil, adjoint à la culture à la ville de Rennes, et découvrir celle de Dominique Allebout, de l'association Parents et Féministes. Place donc à notre dernier épisode, Combattre l'exclusion, avec pour commencer Julie Hague, à qui j'ai demandé de revenir sur sa définition de l'accessibilité.
C'est un terme qui est assez vaste et vague. Souvent dans les lieux culturels, ce qu'on entend par accessibilité, c'est de manière stricte le travail qu'on mène en faveur de l'ouverture des salles et des propositions artistiques aux personnes en situation de handicap. Mais par ailleurs, on pourrait avoir une vision beaucoup plus globale qui vise à penser qu'il y a un public naturel des salles de spectacle et un public qui a des réticences justement à s'y rendre parce que les habitudes n'ont pas été prises jeunes, parce qu'il y a malgré tout une forme d'autocensure et l'idée que ça peut être éventuellement des lieux élitistes. Et donc notre travail à toutes dans le service, c'est d'aller chercher justement tous ces types de personnes, de les rassurer sur le fait qu'ils sont légitimes justement à venir et d'essayer de leur proposer un parcours qui réponde à leurs attentes et qui permette comme ça un premier pas le plus joyeux, intéressant et qui les incite ensuite à revenir éventuellement de manière autonome.
Comment précisément vous allez chercher ces personnes-là qui se sentent pas légitimes ici au TNB ?
Déjà, évidemment, le contact humain, c'est extrêmement important. Donc, on propose très souvent à des partenaires qu'on ne connaîtrait pas encore de venir éventuellement dans la structure pour rencontrer les différents usagers qui peuvent la fréquenter. On essaye aussi d'organiser des parcours qui soient pas simplement de la venue au spectacle, mais d'avoir un accompagnement qui leur permette d'appréhender de manière un peu plus complète les processus du spectacle vivant. Donc, par exemple, organiser une visite sur un temps vraiment dédié avec un groupe de personnes, parfois qui peut être très réduit. Ça peut être 5-6 personnes comme ça qui sont amenées à découvrir l'envers du décor. On organise des rencontres. Ça marche très bien d'ailleurs avec des équipes de régisseurs qui expliquent aussi le côté parfois très concret, très bricolage qu'il peut y avoir dans leur métier, que c'est pas forcément justement une démarche artistique qui peut être plus ou moins difficile d'accès, exigeante, perchée parfois. C'est aussi des compétences en électricité, en chimie, en peinture qui peuvent être requises. Donc c'est aussi des moyens justement d'appréhender un spectacle sous plein d'entrées différentes. Ce qu'on aime bien proposer aussi, c'est des rencontres avec les artistes et des ateliers de pratique pour pouvoir expérimenter de manière vraiment très intime aussi ce que ça peut être le théâtre. Et en fonction justement de ce qui intéresse le plus nos partenaires, on va concocter comme ça une formule un peu sur mesure pour qu'ils se sentent les mieux écoutés et qu'ils trouvent une proposition qui est pertinente pour le public.
J'ai justement fait rebondir Margot Dory de Clair Obscur sur cette notion de public exclu et sur les moyens d'y remédier. Donc de publics isolés qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap, qui n'ont pas de problème d'accessibilité avec le bâti, mais qui vont se sentir exclus par principe de manifestations culturelles comme travelling. Je pense notamment à la communauté Les Suspendus de Rennes dont vous faites partie.
L'accessibilité, ça concerne aussi tout simplement l'accessibilité à l'événement et également l'accessibilité tarifaire. Donc on a à cœur de proposer déjà des tarifs différenciés en fonction des situations de chacun. Également, on propose beaucoup d'événements gratuits et on met en place différents dispositifs, donc le dispositif sortir. Et effectivement, depuis déjà plusieurs années, les billets suspendus. Donc là, le but est effectivement de faire un don pour des places de cinéma. Lorsque le prix prix d'un billet de cinéma est atteint, nous on communique ensuite à nos publics pour dire que des billets sont disponibles. On ne demande aucun justificatif pour pas forcément mettre les personnes mal à l'aise. Tout le monde a droit de venir chercher un billet de cinéma suspendu pour le festival. On communique, je crois l'année dernière, on a communiqué aussi auprès de l'épicerie solidaire de Rennes 2. Enfin voilà, on essaye un peu de faire connaître cette possibilité-là pour que les gens viennent en bénéficier de manière tout à fait naturelle. Étant donné qu'on ne demande pas forcément de justificatif, on n'a pas un profil type de personne qui va en bénéficier, mais voilà, le but, c'est que chacun se sente en tout cas libre de pouvoir y aller. Puis on avait effectivement essayé de communiquer auprès de peut-être la communauté étudiante plus précaire pour qu'ils n'hésitent pas à venir participer. Et puis également, en fait, par ce biais-là, à tout simplement découvrir le festival et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi gratuites en accès libre. Et du coup, il ne faut pas hésiter à en profiter. En termes de propositions tarifaires plus avantageuses, on fait aussi une opération depuis de nombreuses années maintenant avec des commerçants rennais qui s'appellent les Amis du Festival, où là en fait ces différents établissements, commerces rennais, librairies, etc., qui en fait nous achètent des carnets, investissent un peu d'argent dessus et du coup revendent les tickets des carnets à un prix moins cher, à un prix d'amis entre guillemets, voilà, ce qui permet de faire bénéficier à des publics dans le besoin, à des places de cinéma moins chères.
Au-delà d'une politique tarifaire aménagée, est-ce que vous avez d'autres dispositifs, notamment en partenariat avec la ville, qui vous aident à aller toucher des publics a priori isolés ?
Clair Obscur mène effectivement à l'année une importante politique d'action culturelle sur le territoire. Donc effectivement, à travers différents ateliers et des interventions, par exemple, on propose des ateliers de programmation dans des centres pénitentiaires ou des maisons d'arrêt, également des ateliers à l'hôpital ou bien des interventions également auprès d'établissements scolaires prioritaires. Voilà, il y a vraiment un travail pour que cet accès à la culture, au cinéma et également à la pratique du cinéma soit quelque chose de vraiment inclusif et dont le plus grand nombre puisse profiter, quelle que soit la situation de chacun et chacune.
Benoît Careil, adjoint à la culture à la ville de Rennes, à propos de l'ouverture du nouveau musée des Beaux-Arts à Morpa, début 2025.
La démarche, c'est d'aller vers. On sort du centre-ville, on va dans un quartier populaire. Le musée, qui est effectivement le symbole même du temple, de la culture, avec des objets très sacrés, très chers, très précieux. On amène certains de ces objets à proximité des personnes dans un quartier populaire, dans les mêmes conditions d'exposition qu'un vrai musée. Enfin, c'est un vrai musée de toute façon, c'est pas une antenne, c'est le musée des Beaux-Arts qui a deux lieux aujourd'hui. Donc cette proximité associée à une gratuité évidemment de l'accès fait qu'il y a beaucoup de gens du quartier de Morpa qui rentrent pour la première fois dans un musée. C'est ce qu'on recherche. Dans le centre-ville, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire venir tous les gens des quartiers. Donc c'est vrai qu'en allant chez eux, dans leur quartier, on se donne beaucoup plus de possibilités de leur faire découvrir effectivement le patrimoine et les trésors de l'art. Le musée des Beaux-Arts de Rennes est un des rares musées en France qui couvre l'ensemble de l'histoire de l'art. Donc c'est une vraie source d'instruction, de documentation et d'émerveillement. Voilà, on est vraiment content de cette initiative qui remporte un grand succès, enfin il y a beaucoup de monde. Et puis il y aura deux expositions par an, une exposition initiée par le musée et l'équipe du musée et une exposition qui sera construite avec les habitants du quartier. On associe les personnes à la conception d'une exposition. De quoi voulez-vous qu'on parle dans cette expo et puis après on va chercher les œuvres qui sont en lien avec ce thème. Alors, il y aura une expo par an qui sera construite avec les habitants au musée de Morpa.
Ceci dit, on pourrait parler du cas de la bibliothèque de Morpa qui se situe juste en face du nouveau musée des Beaux-Arts. La bibliothèque est restée fermée pendant plus de 4 mois, depuis le 29 octobre 2024 précisément, les employés craignant qu'elle devienne une victime collatérale du trafic de drogue très important dans le quartier. Donc on voit ici qu'il ne s'agit pas seulement de combler un manque d'offres culturelles, mais aussi de garantir l'offre qui est déjà existante.
Quand on parle d'accessibilité, évidemment qu'on a plein de situations où l'accessibilité est rendue impossible. Donc effectivement, c'est un problème. S'il y a un incendie, le bâtiment va fermer et ça sera plus accessible. Et quand il y a à côté une criminalité qui est très présente et qui est intense, c'est le cas du narcotrafic à Morpa comme au Blône, effectivement, ça crée des conditions qui sont pas du tout favorables à l'accès à ces lieux. La bibliothèque de Morpa est au cœur de ce trafic. Les agents ont revendiqué leur droit de retrait et on a bien été obligés de le prendre en compte parce que c'est une réalité. Alors, c'est pas moi, adjoint à la culture, qui lutte contre le narcotrafic, évidemment. Mais des collègues le font et surtout la préfecture, c'est la responsabilité de la préfecture de la police nationale de lutter contre la criminalité. En tout cas, en attendant, effectivement, il y a un problème d'accessibilité à la lecture publique pour la population de Morpa. La bibliothèque n'est pas restée les bras croisés. La bibliothèque de Morpa a pris plein d'initiatives pour aller déployer leur collection dans différents lieux publics du quartier. Les bibliothèques de Rennes sont déjà très présentes dans les écoles, dans les EHPAD, dans les prisons, avec des points lecture. Il y a toujours la possibilité pour les personnes de retirer des livres, de les emprunter, de les ramener. Il y a un projet important de construction d'une nouvelle bibliothèque à Morpa, qui ne sera pas au même endroit, donc peut-être qu'on aura moins ce problème de narcotrafic, mais il existera indépendamment de ça dans le quartier. Et puis voilà, on a pas la solution, hein, clairement. Pour mettre fin au narcotrafic et à cette insécurité, c'est une question régalienne qui appartient à l'État de régler au plus vite. Et nous, on fait en sorte que les services publics municipaux soient toujours accessibles par d'autres moyens.
Pause musicale sur Canal B, on écoute Ma France à moi de Diams.
Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare, elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes, elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps, certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner, elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide, Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme. Elle, il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange, ouais c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme, elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes, elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer, elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hôpital. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
C'était Ma France à moi de Diams. Vous êtes toujours sur Canal B dans Combattre l'exclusion, dernier épisode de notre série de reportages consacrée à l'accessibilité culturelle.
Dominique Albou, je suis adhérente à Parents et Féministes depuis 2019. On essaie d'avoir, on n'a pas tellement de force militante, à vrai dire. On est une petite association, mais très motivée. Et donc, on va développer les valeurs, évidemment, de l'association, c'est-à-dire la défense d'une parentalité égalitaire. C'est pour ça que ça s'appelle Parents et Féministes. Avec une attention aux mères, avec les difficultés qu'on rencontre souvent dans cette période-là, c'est-à-dire la solitude, l'épuisement, la dépression. Le suicide maternel reste encore la première cause de mortalité pendant la première année. Ciné avec bébé, qui est mise en place déjà maintenant depuis 3 ans.
Je vais vous arrêter ici. Depuis combien de temps l'association, elle existe-t-elle?
L'association existe vraiment, elle est structurée depuis 2019. Donc c'est une jeune association.
Et votre rôle dans cette association?
Moi, je suis simple adhérente. D'accord. Voilà, je participe à des actions, mais je n'ai pas de responsabilité. Je ne suis pas dans le conseil d'administration. Je ne suis pas dans le bureau.
Est-ce que vous pouvez nous parler des séances ciné-bébé que met en place l'association Parents et Féministes? En quoi ces séances correspondent d'une certaine manière à une démarche d'accessibilité à la vie culturelle?
Quand Jennifer a contacté l'Arvor pour ces séances-là, le dispositif demande une mise en place spécifique, dédiée à la présence de mères avec bébé. C'est-à-dire que quand on a un bébé et qu'on veut venir au cinéma, c'est pas si facile que ça, parce que le bébé va peut-être pleurer, parce qu'il va peut-être falloir le nourrir pendant la séance ou le changer. Donc les séances sont organisées en tenant compte de cette réalité-là, avec donc une pénombre plutôt que l'obscurité totale, un son un peu atténué, et puis une table allongée à disposition, un chauffe-biberon à disposition, des tapis au sol pour mettre les bébés, et puis un café d'accueil. Moi, j'aime bien le cinéma, donc je fréquente l'Arvor facilement. Et alors là aussi, souvent, ce qu'on est amené à expliquer pour ciné avec bébé, parce qu'il y a le premier malentendu, c'est que les personnes, quand elles entendent ça, elles comprennent que c'est des séances de cinéma pour les bébés. Et donc non, ce sont des séances de cinéma pour les mères, pour les parents. Et donc venir au cinéma, par plaisir de venir au cinéma, ce sont des films récents. 6 mois précédents, on essaie d'avoir une parité plutôt favorable aux réalisatrices, et on est aussi contraint par la durée, c'est-à-dire que 1h30 à peu près pour commencer à 10h, finir à 11h30 pour que les mères, les parents retournent chez eux s'il y a d'autres enfants. Voilà, donc c'est en gros les contraintes. On fait la programmation une ou deux fois dans l'année avec l'Arvor. Arvor et Parents et Féministes discutent sur des films que les uns et les autres ont vus, jugent intéressants.
Vous témoignez aussi d'un souci de l'accessibilité tarifaire?
Alors, pour l'accessibilité tarifaire, Parents et Féministes, comme c'est une jeune association et pas encore très structurée au niveau de la demande de subvention, et donc on n'a pas de budget spécifique pour café, pour ciné avec bébé, et donc c'est la politique tarifaire de l'Arvor, c'est-à-dire 6,30€ la séance, et le tarif de carte sortir pour les personnes qui en bénéficient. Vraiment, l'Arvor est très facilitateur. C'est une chance d'être accueilli par eux, facilité par eux. On figure dans la programmation officielle. Ils s'occupent d'une partie de la communication en imprimant des flyers par trimestre. L'Arvor est un partenaire tout à fait aidant.
C'est ici que s'achève notre série de reportages consacrée à l'accessibilité à la vie culturelle rennaise, à retrouver en podcast sur le site de canalb.fr. À bientôt sur Canal B.